votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Des manifestations ont eu lieu ce week-end en Zambie pour dénoncer l'emprise de la Chine sur l'économie du pays. Êtes-vous inquiet du poids financier croissant de Pékin en Afrique ou pensez-vous au contraire que les investissements chinois sont une chance pour le continent? Selon Pékin, près de 10 000 entreprises chinoises opèrent en Afrique. L'Empire du Milieu est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais aussi le premier créancier. La Chine détient déjà 14% de la dette africaine. Redoutez-vous un nouveau colonialisme ou croyez-vous en un partenariat gagnant-gagnant? Votre avis nous intéresse, appelez-nous au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. On revient sur la disparition la semaine dernière, à l'âge de 95 ans, d'Arthur Mitchell, le premier danseur étoile noir américain. Vincent De Paul, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez d'Abidjan, également en ligne avec nous François Durpère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis et vous avez notamment publié chez Albin Michel en 2018 « Nos ancêtres ne sont pas gaulois, contre-histoire de France ». Vincent De Paul, François Durpère est prêt à vous répondre. Vous pouvez poser votre première question.
Ok. Arthur Mitchell, né à Harlem, dans une banlieue de New York, le premier danseur étoile noire de ballet, est décédé la semaine dernière. Alors je veux savoir comment Arthur Mitchell a intégré le ballet de New York City.
Voilà, François Durpère, donc comment est-il arrivé à intégrer ce prestigieux ballet?
Ah oui, c'est une bonne question, Vincent, parce que quand vous regardez sa date de naissance, 1934, quand vous savez qu'il est noir et qu'il est né à Harlem, vous ne vous dites pas qu'il va intégrer cette institution prestigieuse. Alors, comment il a intégré? Ben, il y a deux raisons. La première, c'est son courage personnel. Ça, il faut pas le mettre de côté. Il a 12 ans quand il assume les responsabilités de toute sa famille. Son père était en prison. Alors, il cire des chaussures. Il fait à peu près tous les métiers. Mais il s'accroche et il continue la danse. Et puis, la deuxième raison, c'est la rencontre avec un conseiller d'orientation qui lui dit, il faut absolument que tu rentres à la High School of Performing Arts, qui est vraiment le lieu qui lui permet de performer au maximum. Et donc, il devient ce premier danseur noir dans cette institution prestigieuse de New York, c'était Ballet. Mais il y a quand même un point, c'est qu'il est le premier, mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi un génie de la danse. Ce n'est pas seulement le premier danseur noir, c'est un danseur tout court qui a révolutionné le style de la danse, un style fluide, un style athlétique. C'est un danseur étoile de génie, au-delà même de sa couleur de peau.
Vincent De Paul, vous avez une autre question pour François Durpère.
Oui, je veux savoir aussi, comment a-t-il marqué l'histoire de la communauté afro-américaine?
François.
Alors Vincent, de deux manières. La première, c'est que c'est un petit peu, on peut parodier, vous savez, la phrase qu'on dit de Neil Armstrong et de la Lune, un petit pas pour Arthur Mitchell, mais un très grand pas pour l'histoire des Noirs américains. Parce que à chaque fois que vous ouvrez une porte d'une institution qui était fermée pour la communauté noire, vous permettez à tous les autres de rentrer dans cette institution. Et on peut évidemment penser à Misty Copeland en juin 2015, qui est la première femme noire à devenir, elle, danseuse étoile. Mais il y a une autre raison, c'est qu'il n'a jamais abandonné la communauté noire, bien au contraire. Un an après la mort de Martin Luther King, l'assassinat de Martin Luther King, ce militant des droits civiques qu'il était ouvre une école de danse à Harlem. Alors il a 25 000 dollars qu'il dépense pour ouvrir cette école, 30 enfants dans un sous-sol d'une église de Harlem. Et puis un an plus tard, c'est la fondation Ford qui lui donne 315 000 dollars pour agrandir cette école qui compte après plus de 500 jeunes. Et donc, vous voyez, c'est ces deux pas, ouvrir une institution fermée aux Noirs, mais également toujours se tenir aux côtés de sa communauté, de son quartier d'origine, Harlem, et donc militer avec son art particulier qui est la danse.
Merci beaucoup François Durpaire d'avoir été avec nous. À très bientôt sur l'antenne de RFI. On aura certainement l'occasion de revenir avec vous sur les midterms de novembre aux États-Unis. Vincent Depaul, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Abidjan. On va maintenant parler de l'Argentine avec le dernier épisode du vaste scandale de corruption qui secoue le pays depuis le mois d'août. C'est le sujet d'actualité que vous avez choisi, Marius. Bonjour.
Salut Chantal et bonjour à tous les auditeurs de l'émission.
Vous nous appelez, vous aussi, d'Abidjan. En ligne avec nous, l'un des meilleurs spécialistes de l'Amérique latine, Jean-Jacques Kourlianski. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Marius, vous avez la parole.
Ok. L'ex-présidente d'Argentine, Cristina Kirchner, a été inculpée la semaine dernière par la justice de son pays pour corruption lorsqu'elle était encore aux affaires. Alors, je voudrais savoir de quelle preuve dispose la justice pour porter ses accusations contre elle. Pourquoi reste-t-elle encore en liberté?
Jean-Jacques Kourlianski.
Bon, alors pourquoi reste-t-elle en liberté? Parce qu'elle est élue, elle est sénatrice, donc elle bénéficie de l'immunité dont disposent tous les élus. Ce n'est pas la seule. L'ancien président Carlos Saúl Menem, également du parti péroniste, condamné à 7 ans de prison il y a bien des années, est toujours en liberté parce qu'il est sénateur, qui bénéficie d'une immunité que n'ont pas voulu lever ses collègues. Alors ensuite, sur le problème de la corruption en Argentine, et c'est un vieux problème qui a défrayé la chronique politique et judiciaire argentine, au minimum depuis le rétablissement de la démocratie. Il y avait eu des affaires retentissantes comme celle des marchés assortis de pots de vin, du renouvellement du parc informatique par IBM de la Banque Nationale Argentine, enfin les ventes d'armes avec des pots de vin à la Croatie et à l'Équateur, des épisodes rocambolesques comme en 2016 un ancien secrétaire d'État de l'ex-présidente argentine qui a été pris en flagrant délit en essayant de passer des valises avec 8 millions, près de 9 millions de dollars, pardon, dans un monastère. Et il est actuellement en prison. Donc c'est une succession d'affaires et de scandales qui sont, je dirais, presque structurelles en Argentine. Alors, sur le cas plus précis de l'audition de l'ex-présidente argentine ces derniers jours. Bon, alors il est possible qu'il y ait, vraisemblable qu'il y ait des affaires de pots de vin, des marchés, des appels d'offres truqués assortis de versements d'argent dans des paradis fiscaux. Cela dit, la façon dont l'affaire a été portée à la connaissance de la justice est assez rocambolesque. C'est un journaliste d'un journal d'un parti opposé à l'ex-présidente argentine, La Nation, qui a reçu, selon ses propos, le 8 janvier de cette année, un cahier extrêmement précis de versement de fonds pendant une dizaine d'années qui aurait été effectué par le chauffeur d'une personnalité péroniste. Ce qui surprend, c'est que ce cahier est extrêmement bien tenu et extrêmement bien écrit, ce qui ne correspond pas à la personnalité du chauffeur. Et d'autre part, on est également surpris de constater qu'un simple chauffeur ait pu tenir un tel cahier avec une connaissance extrêmement précise des montants financiers qui auraient été versés sous forme de pots de vin et qu'il aurait été chargé de transporter d'un endroit à l'autre.
Donc il pourrait s'agir d'une mise en scène. Vous avez des doutes?
Je ne suis pas le seul à avoir des doutes. Tout le monde s'interroge. Enfin, personne ne s'interroge sur le fait qu'il y a de la corruption en Argentine, mais dans le cas d'espèce, cette affaire très particulière et qui est extrêmement rocambolesque, mais ça arrive souvent en Argentine, hein. Comme je vous disais, cette histoire du couvent avec un ancien ministre, un ancien secrétaire d'État de Mme Kirchner qui essayait de faire passer des 9 millions de dollars dans des sacs, dans des valises, à travers la grille d'un couvent, en pleine nuit, c'est aussi quelque chose d'assez rocambolesque et pourtant qui était vrai, qui a été filmé par un voisin sur son téléphone portable et qui avait appelé la police. Donc, mais malgré tout, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur les conditions dans lesquelles ce document a été établi, par qui il a été établi, et qui a bien pu le transmettre à ce journaliste qui immédiatement, évidemment, l'a exploité et l'a fait suivre à la justice de son pays.
Jean-Jacques Kolianski, Marius a une autre question pour vous. Marius ?
Oui, Chantal, je voudrais savoir, est-ce qu'elle a encore un avenir dans la politique de son pays ?
Jean-Jacques ?
Oui, paradoxalement oui, pour une raison très simple, pour deux raisons, disons. La première, c'est que l'Argentine connaît en ce moment, dans les cycles de croissance et de décroissance, de croissance et de crise, l'Argentine actuellement est dans une crise profonde, donc une décélération de la croissance, une croissance négative, augmentation du chômage, austérité budgétaire qui pèse sur les ménages les plus modestes, hausse des prix des services publics, accord avec le FMI qui est assorti de conditions qui aggravent donc le poids de la crise sur les plus démunis. Donc les Argentins ne sont pas contents. Donc quel est le choix qu'ils peuvent avoir à l'occasion d'un vote ? Il y en aura un l'année prochaine pour les élections présidentielles. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le président actuel, qui est un président qui représente un parti de droite, pro. C'est le nom de ce parti. Et il y a la mouvance péroniste, dans la mesure où les partis de gauche sont très fragmentés, relativement peu représentatif. Donc il y a...
Cristina Kirchner pourrait apparaître à nouveau comme un recours.
Elle pourrait être candidate parce qu'il n'y a pas d'autres personnalités marquantes pour l'instant dans le parti justicialiste qui est le parti péroniste. C'est également cette appellation, et donc elle pourrait donc échapper d'ailleurs à la justice en étant éventuellement élue présidente en surfant sur la crise profonde que traverse l'Argentine aujourd'hui.
Merci beaucoup Jean-Jacques Kolianski d'avoir été avec nous. Marius, continuez à nous écouter à Abidjan. À bientôt. La crise migratoire continue à diviser les Européens. C'est le sujet qui vous intéresse. Gabin, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Libreville. En ligne avec nous, François Jemaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des flux migratoires et chercheur à l'Université de Liège et à Sciences Po Paris. Gabin, on vous écoute. François Jemaine est prêt à répondre à vos interrogations.
Merci Chantal. Justement, la semaine dernière, l'UE a tenu son sommet en Salzbourg en Autriche, au cours duquel la question d'une politique commune de l'Union a été largement au cœur des débats. Donc à la fin du sommet, aucun consensus n'a été trouvé. Donc la question c'est de savoir quelles sont les principales raisons ou points de divergence qui font que finalement il n'y a eu aucun consensus malgré de longs débats.
François Jemaine, votre analyse ?
Ben effectivement, vous avez raison de le dire, on n'avance pas, et ça fait au moins 25 ans que ça dure. Il y a un refus obstiné de la part des gouvernements européens de mettre en place un vrai projet européen en matière de politique d'asile et d'immigration. Le seul horizon politique sur lequel ils parviennent à s'accorder, c'est sur la fermeture des frontières extérieures et le renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Mais pour ce qui est des politiques migratoires et des politiques d'aide même asile, il n'y a rien. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ? Je dirais pour plusieurs raisons. D'abord, une raison symbolique, parce que la plupart le voient comme une marque essentielle de leur souveraineté nationale, et donc s'imaginent que, en acceptant que l'Union européenne prenne en charge ce dossier, ils abandonneraient une part de leur souveraineté nationale. Donc c'est une première raison qui est presque culturelle, symbolique. Une deuxième raison, elle est conjoncturelle et politique, et elle tient au fait qu'il y a aujourd'hui une opposition profonde en Europe entre des partis populistes et extrémistes qui gouvernent des pays comme l'Italie, la Hongrie ou l'Autriche, qui aujourd'hui ont la main sur ces questions et dictent l'agenda européen sur ces questions. Et donc il reste des pays qui essayent un peu, tant bien que mal, et de façon souvent inconfortable, de résister à cela. Mais aujourd'hui, un véritable agenda populiste qui est en train de s'imposer en Europe sur la question des migrations. Et c'est cela aussi qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'accord politique pour le moment.
Marius, vous avez une autre question pour François Jemaine.
Oui, Chantal. Justement, en parlant de l'Autriche, dans les nombreuses pistes envisagées par l'Union européenne,
Il s'agit notamment d'associer d'autres pays de la Méditerranée, ici en l'occurrence l'Autriche, qui a l'Égypte, qui a été approchée par le chancelier autrichien notamment, pour trouver des solutions à cette crise. Donc moi j'aimerais savoir dans quelle mesure, sur quel axe l'UE compte-t-elle associer un pays tel que l'Égypte, quand on sait par exemple qu'il y a déjà eu d'autres associations avec la Libye par exemple.
François Jemen.
Cette question est dans la lignée de la question précédente. Comme les pays de l'Union européenne, comme les gouvernements européens ne parviennent pas à développer une politique commune, ils ont tendance à externaliser, c'est-à-dire à confier à des pays tiers, le soin de faire ce que eux ne parviennent pas à faire d'un point de vue politique. C'est comme ça qu'ils ont négocié des accords avec la Turquie, qu'ils ont négocié des accords avec la Libye, et qu'aujourd'hui on envisage un partenariat avec l'Égypte, c'est-à-dire que, pour le dire très très platement, on est dans une logique quasiment de mercenaires, où les gouvernements européens vont payer des gouvernements qui sont parfois autoritaires ou peu recommandables pour en quelque sorte gérer à leur place ce qu'ils ne parviennent pas à faire. C'est indigne de la part de gouvernements européens qui devraient, je dirais, avoir une politique qui soit un peu à la hauteur du projet européen. Ce sont des accords indignes.
Merci François Jemen de cet éclairage sur la question migratoire. Bonne journée Gabin, merci également à vous d'avoir participé à cette émission. On va terminer cette première partie avec l'Afrique du Sud. La Cour constitutionnelle a décidé de dépénaliser la consommation de cannabis. Henri, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Pointe-Noire et nous avons en ligne de Johannesburg notre correspondant Noé Ochebaudin. Bonjour.
Bonjour.
Henri, est-ce que vous pouvez poser votre première question à Noé ?
Voilà, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie réellement cette décision surprenante prise par la Cour constitutionnelle sud-africaine ?
Noé.
Oui, il y a plusieurs raisons qui ont mené la Cour constitutionnelle sud-africaine à dépénaliser le cannabis. Je répète bien dépénaliser, pas légaliser, car beaucoup d'habitants de Johannesburg faisaient la confusion la semaine dernière après la décision. La première raison, la principale, c'est le droit au respect de la vie privée. C'est l'argument avancé par les juges sud-africains la semaine dernière. Interdire la consommation de cannabis à la maison est donc contraire à la Constitution, car dans son article 14, très précisément, elle reconnaît notamment le droit absolu de ne pas avoir à révéler ce qui se trouve dans son espace privé, sous-entendu chez soi, ou encore le droit de ne pas se faire saisir ses possessions par les autorités. La liberté de religion est une des autres raisons avancées, car les Rastafaris sud-africains se sont impliqués dans cette bataille juridique qui dure depuis plusieurs années. Pénaliser le cannabis est un frein à leur liberté religieuse selon eux, car ils voient en effet le cannabis comme une plante sacrée et bénéfique. Le gouvernement s'est lui d'abord opposé à la dépénalisation, notamment le ministère de la Santé, pour qui le cannabis reste un produit dangereux. Le ministre de la Police craint, lui, que la criminalité, déjà très élevée en Afrique du Sud, n'augmente après cette décision. À noter, par ailleurs, que le cannabis n'est pas le stupéfiant le plus dangereux en Afrique du Sud, surtout depuis l'arrivée de drogues dures et peu chères comme le niaopé ou le kat, qui font des ravages depuis plusieurs années. Mais au sein du même gouvernement, tout le monde n'est pas d'accord. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a, lui, une toute autre opinion. Il envisage la dépénalisation comme un premier pas vers une régularisation qui pourrait participer à la croissance du pays. Il s'inspire là des exemples en Uruguay ou aux Pays-Bas, où les taxes sur le cannabis augmentent largement les recettes de l'État.
Henri, une autre question pour Noé.
Oui, y aura-t-il des restrictions dans la consommation du cannabis ?
Noé, brièvement.
Oui, il y aura des restrictions. La décision ne légalise pas le cannabis dans l'espace public, mais le dépénalise seulement dans l'espace privé. Il est donc toujours interdit de consommer du cannabis dans les rues de Johannesburg, par exemple. On est encore loin des cas uruguayens ou néerlandais, par exemple. Le jugement rend possible trois choses très concrètement. La consommation en privé, la culture de chanvre en privé là aussi, et la possession, elle sera autorisée et dans l'espace privé et dans l'espace public. Et le Parlement sud-africain aura 2 ans pour inscrire ce nouveau droit dans la loi et définir pour le coup un cadre strict.
Merci beaucoup Noé Ochebaudin pour ces précisions. Henri, bonne journée à Pointe-Noire. Vous qui nous écoutez à Conakry, je vous rappelle que Juan Gomez vous donne rendez-vous demain, mercredi, à partir de 13h au Centre culturel franco-guinéen pour l'enregistrement en public de 2 émissions d'appel sur l'actualité. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, Juan vous proposera de dresser un bilan. Que reste-t-il de l'euphorie de 1958? Comment la Guinée a-t-elle géré son indépendance?